studio Tamani, toute la voix du Mali.
Studio Tamani, voici les informations en français.
À la une de cette édition, c'est parti depuis ce matin pour la phase nationale de la consultation des forces vives sur la relecture de la charte des partis politiques. Elle vise à analyser les propositions issues de la phase régionale afin de faire des recommandations pour la relecture de la charte des partis. Va-t-on assister cette année encore à des inondations? En tout cas, les pluies reçues ce lundi matin ont déjà donné des signaux avec le blocage de plusieurs voies publiques par les eaux. Dans la chronique Zoom sur, nous parlons aujourd'hui des personnes qui utilisent abusivement les produits des autres mais qui ne sont jamais prêtes à payer. Je suis Juliette Koulibaly à la présentation. Adjaratou Traoré assure la technique. Bonsoir et bienvenue à cette édition. La phase nationale de la consultation des forces vives du pays sur la relecture de la charte des partis politiques a démarré ce lundi 28 avril 2025 à Bamako. Les participants sont venus des 19 régions et les 49 représentations diplomatiques et consulaires. Durant deux jours, ces délégués vont examiner les recommandations issues de la phase régionale et les améliorer en vue de proposer un nouveau visage pour les formations politique malienne. Moussa Malé Sissoko était présent à l'ouverture des travaux.
La phase nationale est consacrée à l'analyse des propositions faites lors de la phase régionale tenue les 16 et 17 avril derniers. Sidiki Koulibaly, conseiller technique au ministère chargé des réformes politiques, revient sur l'objectif de cette ultime étape de concertation.
Il s'agit ce matin de proposer la synthèse de ces consultations aux délégués, de les affiner et de proposer davantage de modalités pratiques de mise en œuvre des recommandations ici des assignations de la refondation en lien avec la relecture de la charte des partis politiques. C'est ce qui a été soumis aux partis politiques et à l'ensemble des forces vives de la nation.
Les délégués sont issus des organisations des femmes, des jeunes, des légitimités traditionnelles, des confessions religieuses, de la diaspora, entre autres. Ils apprécient différemment ces consultations initiées par les autorités.
Que ça soit grand ou petit, un parti, c'est un parti. Donc pour mieux tirer les choses, il faut dissoudre d'abord, les réorganiser encore sur une nouvelle base.
Les partis politiques au Mali ne s'opposent pas à la réduction, mais comment réduire? C'est cette question qui se pose. Est-ce dans un premier temps, il s'agit de dissoudre de façon générale? Est-ce dans un second temps, les réduire au fur et à mesure avec des critères rigoureux?
De nombreux partis politiques ont boycotté ces concertations. Parmi eux, l'initiative des partis politiques pour la relecture de la charte et réunissant plus d'une centaine de partis. Ce regroupement a demandé aux autorités de surseoir à cette démarche.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. La capitale Bamako a reçu de la pluie ce lundi. Ces précipitations ont provoqué le blocage de plusieurs routes et des inondations dans certains quartiers à Bamako. Sur la RN27 au niveau de Djelibougou, les eaux de pluie ont bloqué plusieurs véhicules, obligeant des usagers à rebrousser chemin pour pouvoir accéder au centre-ville. Des passagers empruntant ce tronçon réagissent ici.
La route est coupée. Une seule pluie a suffi pour rendre le tronçon du nouveau pont impraticable. Nous sommes au niveau du lycée Kodonso. Impossible d'accéder à la ville. Les travaux n'ont même pas vraiment commencé. Il faut absolument trouver une solution.
On a tourné pendant une heure dans la ville alors qu'on ne met même pas autant de temps pour aller à Kodonso.
Je pense qu'ils doivent rapidement trouver une solution. Il faut agir maintenant pour que pendant la saison des pluies, la circulation puisse se faire librement. Je demande à ceux qui sont en charge des travaux routiers de prévoir rapidement des collecteurs d'eau pour permettre un bon écoulement.
Je me demande comment on va faire pour arriver à destination.
Autre sujet de ce journal, depuis la fête de Ramadan, de nombreux véhicules gros porteurs hors gabarit et hors normes sont bloqués au niveau des frontières. Cette situation résulte de la mesure d'interdiction de circulation de ces véhicules hors normes entrée en vigueur le 1er avril dernier. À Sikasso et dans d'autres villes, ce blocage a entraîné une augmentation des prix de certains produits comme l'avocat, la banane plantain et l'achéqué. Néanmoins, des transports transporteurs dont les véhicules sont bloqués à Yoroso sollicitent la clémence des autorités. Suivons ce reportage de Assetou Kanté avec l'appui de nos correspondants.
À Kouri, à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, des chauffeurs et transporteurs sont immobilisés depuis le 1er avril. Selon leur déclaration, leurs véhicules ne sont pas conformes aux nouvelles réglementations concernant le transport des gros porteurs. Ils font part de leurs difficultés face à cette situation.
Dimension des camions, eux, ils ont donné 17 mètres. Or, nous, présentement, on a 18 mètres. On a des produits qui sont dedans, qui vont gâter.
Là où nous sommes à Kouri, il n'y a aucune sécurité. Nous avons de l'aliment bétail dans les camions. Nous l'avons chargé au Bénin, direction Bamako.
Nous ne pouvons pas décharger le véhicule.
Nous avons du ciment, il n'arrête pas de pleuvoir. Nous sommes à Kouri depuis la fête de Ramadan.
Bien.
À Sikasso, de nombreux véhicules sont aussi stationnés selon des ressources locales. L'impact du blocage de ces véhicules se répercute sur l'accessibilité de certains produits. Des vendeuses au marché de Sikasso déplorent la hausse du prix de l'avocat et de la banane plantain.
L'avocat est devenu cher parce que ce qu'on achetait à 2000 francs CFA est cédé à plus de 5000 francs CFA.
Ils refusent de respecter les normes et nos marchandises restent bloquées là-bas et les bananes plantain pourrissent.
Le prix de l'avocat a augmenté. Celui-ci, je l'ai acheté à 250 francs. Or, avant, on pouvait l'avoir à 100 francs ou 150 francs.
Notons qu'à Bamako, le prix du kilogramme d'attiéké a connu une augmentation. Vendu auparavant à 700 francs, il est cédé actuellement à 1250 francs CFA.
Cap à présent sur le cercle de Bafoulabé où la première dose du vaccin antipaludique R21 a été inoculée à un enfant au centre de santé communautaire CESCOM de Maïna. L'événement s'est déroulé le 25 avril dernier et était présidé par le préfet. Le district sanitaire de Bafoulabé, faut-il le rappeler, fait partie des 19 cercles du Mali retenus pour la campagne de vaccination contre le paludisme. Cela à cause de la prévalence élevée de la maladie dans le cercle. La campagne vise les enfants âgés de 5 ans à 36 mois, soit un total de 19 458 enfants. Restons toujours à l'intérieur du pays. Cette fois-ci, nous allons à Ménaka. Le 10 mars dernier, 152 enseignants de la région absents de leur poste ont eu leur salaire suspendu par décision du gouvernement. Plus d'un mois après, certains ont rejoint Ménaka par route et d'autres devraient le faire par vol. Au total, 94 ont vu la décision de suspension levée. Parmi eux, 50 attendent un vol pour quitter Bamako et 44 sont venus par route. Selon le directeur de l'école fondamentale Ménaka de second cycle, l'arrivée des enseignants a un impact positif sur la vie de l'école. Wassama Soumelou est au micro de notre correspondant sur place, Mohamed Agh Issa-Fétane.
Vraiment, moi, quand même, je vois vraiment un impact positif parce que leur arrivée, vraiment, ça nous a beaucoup aidé. Parce que vu les effectifs pléthoriques maintenant avec les classes vides, on voit que maintenant, là, on a quand même, on peut gérer quand même avec les autres. On avait des classes fermées, mais maintenant, on ouvre. On a déjà ouvert une classe. Donc c'est largement suffisant. En réalité, ça a un impact vraiment positif pour nous quand même. L'arrivée de ces enseignants, ils ne sont pas tous là, mais ceux qui sont venus quand même servent à quelque chose.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Les outils de l'intelligence artificielle sont certes incontournables dans la vérification des faits, mais certains n'en font pas une utilisation efficiente. De nos jours, les IA proposent des images et des vidéos ultra réalistes et des utilisateurs en profitent pour tromper. Dans notre rubrique « Vérifions », Draman Maïga nous parle des dernières mises à jour de certains IA.
Les récentes mises à jour de ChatGPT sont époustouflantes. Cette IA n'est plus un simple moteur conversationnel. La version actuelle de GPT est encore plus puissante. Elle comprend mieux le contexte, répond plus vite et interagit avec du texte, des images, du son et même de la vidéo selon ton prompt, c'est-à-dire ce que vous lui demandez de faire ou encore la commande que vous passez. Elle propose des images réalistes, presque des photos parfaites prises par un professionnel. Des images que des personnes de moralité douteuse utilisent souvent pour tromper. Tout comme cette première IA, Midjourney propose aussi des images pareilles. Récemment, les réseaux sont inondés d'images en mode Ghibli. Et ce n'est qu'une infime partie de ce que proposent les outils IA tels que Perplexity AI et Agen de nos jours. Certes, les outils d'intelligence artificielle révolutionnent. Cependant, sans une utilisation efficiente et raisonnable de ces outils, le danger est grand. Car leur mauvaise utilisation amplifie les fake news et intoxique le monde de l'information. Aussi, les IA ne remplacent aucunement l'humain.
Vous connaissez tous quelqu'un qui aime utiliser de façon démesurée les objets des autres sans jamais faire l'effort de les payer, même une fois. Et c'est le sujet abordé par Moussa Agmaha dans la rubrique Zoom sur.
Ismaël est l'illustration parfaite de ce genre de personnes qui aiment utiliser abusivement les produits des autres. Il vit avec son cousin Issa depuis quelques années dans la même chambre. La pommade, les parfums, les pâtes dentifrice, le brosse et même les habits, c'est toujours Issa qui les paye. Mais Ismaël, lui, semble plus sérieux quant à leur utilisation. Pas plus tard qu'un mois, Issa a payé un parfum de 10 000 francs. Une semaine après, il remarque que la bouteille est presque vide. Il murmure en disant « Eji, quand est-ce que tout cela va finir ?» Il sort de sa chambre énervé, il demande « Dis-moi Ismaël, tu te laves avec les parfums ou quoi ?» Ismaël réplique en disant « Tchéjo, toi aussi, ne fais pas comme si c'est une barrique de parfums que tu avais acheté. Une petite bouteille comme celle que tu avais amenée la dernière fois ne peut pas dépasser 2 semaines. » Comme Ismaël, Fatou fait subir la même chose à sa grande sœur Artia. Elle est championne quand il s'agit d'utiliser les parfums, les savons et même les objets de parure de sa grande sœur Artia, mais n'est jamais prête à payer un petit savon de 500 francs. Chers auditeurs, il est bien d'être propre et sentir bon, mais il est encore mieux de se donner les moyens pour y arriver.
C'est noté et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Après le magazine, vous pouvez suivre le grand dialogue sur le thème Kenyeba. Les conséquences de l'exploitation minière sont très visibles. Le magazine gouvernance de cette semaine parle de rédivabilité. Ce principe consiste pour les élus à rendre compte de leurs actions de manière régulière, qu'il s'agisse de bilans mensuels, trimestriels ou annuels. Mais les élus jouent-ils réellement le jeu de la transparence en rendant régulièrement compte à leurs concitoyens? Élément de réponse avec Oumar Waigalo.
L'exercice de la rédivabilité consiste à présenter le bilan de l'année écoulée et les perspectives de l'année en cours. Des élus des collectivités font cette restitution de manière régulière avec les coûts socio-professionnels. C'est le cas en commune 4 du district de Bamako. Saka Alseni Kamara, président de la délégation spéciale de la mairie, indique que l'utilisation des cotisations de la population est justifiée devant elle lors des rencontres.
Quand tu regardes les ressources de la collectivité, c'est des cotisations émanant quand même de ces populations-là. Si c'est une subvention de l'État, c'est fait à l'actif de ces populations-là. Donc, cette couche-là qui doit être informée de tout ce qui se passe.
Cet exercice pratique de la reddition des comptes des élus face au peuple est réel par endroit. Anara, le conseiller régional de la jeunesse, indique que leurs préoccupations sont prises en compte, affirme son président Modibo Keïta.
Surtout la jeunesse, la partie qui nous concerne, les grandes réalisations telles que les constructions. Récemment, la mairie, à travers ses partenaires, ont eu à clôturer le cimetière de Nara et puis ils ont eu à faire des routes. C'est surtout ces grandes réalisations-là qui nous touchent parce que ça impacte directement au développement local.
À Bankas, dans la région de Banjagara, le conseil du cercle effectue la restitution de manière annuelle. Amadou Yaro, ancien président du conseil du cercle, évoque son bilan à la tête du conseil du cercle de Bankas et sa façon d'accomplir sa démarche de redevabilité.
Pour atteindre en fonction de ce qui a été établi, notre devoir était de rendre compte au niveau des structures. C'était vraiment des infrastructures structurantes qu'il fallait développer et rendre compte aux citoyens de ce qui a été fait.
De Bamako en passant par Yoroso et Sikasso, certains citoyens qui payent les impôts et les taxes exigent des élus qu'ils fassent la restitution. Selon eux, le principe de redevabilité leur permet de savoir où vont les cotisations.
La population lambda contribue à soutenir la collectivité. En retour, la population a bel et bien le droit de savoir où est-ce que ces structures-là vont injecter ces argent collectés-là.
Les maires doivent faire une évaluation générale.
Chaque année des Jeux à septembre, on assiste à la restitution des élus, mais on n'a jamais exigé qu'ils les fassent.
La redevabilité permet non seulement de renforcer la confiance entre les élus et les citoyens, mais aussi d'encourager la population à s'acquitter de son devoir civique, estime Mme Samake Fatoumata Astraoré, experte en bonne gouvernance.
si les administrés savent que leurs taxes, leurs impôts et autres sont bien utilisés. Cela renforce leur confiance et les encourage aussi à payer ces taxes et ces impôts.
L'experte en bonne gouvernance, Mme Samake Fatoumata Astraoré, va plus loin. Elle avance que la redevabilité des élus aux citoyens est une obligation. C'est la loi qui demande aux responsables des collectivités de faire la restitution des actions réalisées.
Les élus sont obligés de faire la restitution aux citoyens. Et c'est l'article 222 du Code des collectivités de 2023 qui le dit. La restitution doit notamment porter sur le compte administratif, l'état d'exécution des PDS, et puis l'état de fonctionnement des organes et services propres de la collectivité territoriale.
Il faut rappeler que lors de ces restitutions, les intérêts et les besoins des communautés sont au cœur des discussions.